merci d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui de Saint-Paul. Vous avez fait vos études notamment à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous avez soutenu un doctorat en théologie biblique et vous êtes désormais directeur de l'Institut supérieur de sciences religieuses et directeur des cours publics et co-créateur de l'école cathédrale après plusieurs années d'enseignement à l'école cathédrale. Et vous avez notamment participé, vous êtes en train de participer sur le compas à la traduction de la première lettre aux Corinthiens. Vous êtes un des grands spécialistes de Saint-Paul et vous venez nous parler ce soir de la conversion de Saint-Paul. Merci encore d'être venu de venir nous parler de ça.
Merci de votre accueil. Je suis prêtre du diocèse de Paris aussi. Voilà. Ça fait plus mon quotidien. Je peux traduire la première encore un peu. Voilà, on a une heure, c'est ça?
Voilà, il faudrait qu'on ait terminé à 10h30.
Donc on va terminer à 10h30. Alors, vous parlez de la conversion de Saint-Paul, c'est facile, 30 secondes, il ne s'est pas converti, au revoir, à la prochaine. Dans le Nouveau Testament, on ne parle jamais de l'expression « conversion de Saint-Paul ». Quand Saint-Paul est baptisé, quand il se met à annoncer Jésus, mort et ressuscité, il n'a pas conscience d'avoir changé de religion. Il reste juif jusqu'à la fin de sa vie. Le judaïsme du 1er siècle est une entité suffisamment riche et complexe jusqu'en 70. 70, c'est la chute du temple de Jérusalem. Donc jusqu'en 70, le judaïsme est suffisamment riche et complexe pour supporter qu'il y ait une autre branche, d'ailleurs on va l'appeler la voie, qui sont les disciples de Jésus. Donc ça, pour Paul, il n'y a pas de phénomène de conversion, il y a un phénomène de cheminement, une mise à part qui lui permet de rencontrer Jésus, qui lui permet de vivre son judaïsme et l'alliance autrement. Alors par la suite, il y a la fête de la conversion de saint Paul le 25 janvier, et rassurez-vous, je la célèbre comme tout le monde. J'ai d'autres degrés de résistance, de foyer de résistance, mais pas celui-là. Parce que il y a effectivement, il se passe quelque chose. Enfin, toute rencontre avec le ressuscité est une conversion, un changement de vie. C'est vrai qu'il s'est passé des choses quand même à ce moment-là. Je vous ai mis sur la feuille les textes qui parlent de cette rencontre avec le ressuscité. Il semble qu'il l'ait rencontré trois fois. On va voir ça. Et là, vous avez des textes qui en parlent deux dans le texte. Je propose qu'on lise le premier des textes. Qui veut bien vous lire
Quelqu'un sait lire.
Voilà. Jean-Benoît, le sort vous est choix.
Car vous avez entendu parler de mon comportement de la guerre dans le judaïsme. Avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mon père. Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de lutter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas.
Merci bien. C'est ce passage de la lettre aux Galates. Un des passages autobiographiques les plus longs que Paul écrit. Et vous voyez que, si vous faites juste un peu d'analyse grammaticale, la rencontre avec le ressuscité ne fait même pas partie de la phrase principale, enfin de la proposition principale. C'est à ce moment-là, et ce qui compte, c'est qu'il est parti pour l'Arabie. Vous voyez dans le fond. Donc, Paul est un homme, c'est pas l'impression qu'il laisse. Mais selon les canons littéraires et affectifs de son temps, Paul est un homme pudique. Il ne raconte pas beaucoup les choses intérieures. Par exemple, le dernier texte, là, on verra, j'en viens aux révélations. À ce moment-là, il y a les Corinthiens qui disent « Chouette, enfin, il va nous raconter. » Et puis, ben, quand on va lire le texte, on va voir qu'il ne nous raconte rien. Ou à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a Paul avant, et puis il y a la rencontre avec le Christ sur la route de Damas. La lettre aux Galates ne mentionne pas le lieu, la route de Damas. C'est Luc qui précise cette information. On va l'appeler la route de Damas. Voilà, on va rester simple. Et donc Paul se présente comme étant un pharisien, il le dit dans d'autres endroits. Si on regarde à peu près, il est une dizaine d'années plus jeune que Jésus, enfin, à savoir quand est-ce qu'est né Jésus. Enfin, comme on ne sait pas non plus quand est né Paul, on est 10 ans, c'est l'écart à peu près. Hein, voilà. On n'a aucune trace comme quoi il ait pu rencontrer Jésus, soit en Galilée, soit sur les ruelles de Jérusalem, même si saint Jean Chrysostome fait de Saul de Tarse le jeune homme riche de l'Évangile. Ce qui est génial du point de vue spirituel et théologique, mais historiquement, on n'a pas d'élément pour le faire. Il a fait ses humanités, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Il a une formation, il connaît bien sa langue, il connaît bien le grec, il sait écrire. Il a une culture générale. C'est pas un normanien, hein. D'accord, ok, mais pas mal quand même, quoi. Hein. Il est allé à la fac. Juste. Ah, ça vous fait rire, hein? C'est la guerre. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas un génie, mais c'est quelqu'un qui exploite pleinement sa culture, sa langue, pour dire son message. À côté de ça, il a une formation rabbinique hein, à Jérusalem. Luc nous dit auprès de Gamaliel l'Ancien. Peu importe ce détail, il est formé comme pharisien. Être pharisien, c'est quoi? C'est appartenir à une confrérie. On a choisi un maître et on lui demande de nous apprendre à vivre selon la Torah. Et il y a tout un réseau de familles pharisiennes, de maîtres pharisiens, qui sont les héritiers de la Torah orale qui remonte à Moïse, qui permet d'interpréter la Torah écrite pour savoir quoi faire, quoi vivre, dans telle et telle circonstance. Et donc quand on est pharisien, ça ne veut pas dire qu'on rentre dans une communauté genre monastique. On va célébrer le Shabbat ensemble, on va se retrouver de temps en temps pour faire un temps de retraite, il va y avoir plusieurs manières d'être ensemble, et on apprend de ce rabbi comment il faut vivre selon la voie de Mosé. Quand Jésus dit « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Une espèce de renversement qui montre bien que ouais, le groupe, les 12, ça pouvait ressembler à une confrérie pharisienne autour de Jésus, mais Jésus disait « C'est pas vous qui m'avez choisi. » Parce que c'était comme ça que ça se faisait dans ces confréries. Une chose très importante pour ces confréries, c'est la dimension apocalyptique. C'est-à-dire, on attend une révélation et la venue du Fils de l'Homme. Pas tous devaient le mettre au centre cette figure-là, mais on va le dire comme ça, qui allait inaugurer le royaume de Dieu. Le problème de tous les Juifs avant 70, c'est de savoir comment se préparer au royaume de Dieu qui vient. Tout le monde est conscient que ça va arriver là, dans quelques instants. Et chacun des groupes qui constituent ce judaïsme extrêmement riche propose une solution différente. Les pharisiens, c'est le respect de la loi qui va, dans toute sa plénitude, dans toute sa rigueur aussi parfois, qui va provoquer même le royaume de Dieu. Et les pharisiens passent pour des libéraux, en ce sens qu'ils veulent que tous puissent avoir accès à cet enseignement. Ils s'occupent du peuple, ils sont plutôt bien vus du peuple, ils sont 6 à 8 000, hein, pour une population estimée à 300-400 000. Ils s'occupent du peuple. Et un slogan qui montre très bien ce qu'ils veulent faire, la maison est un temple, la table un autel, et le repas une liturgie. C'est-à-dire que tous les éléments de la vie quotidienne peuvent être pris par l'enseignement de la Torah. Y compris apprendre des enseignements purement liturgiques du Lévitique, comment est-ce qu'il faut faire pour offrir les sacrifices, et les spiritualiser pour les faire vivre par tous. Alors, de temps en temps, Jésus leur dit « Attendez, vous écrasez les gens avec tous ces détails. » Mais c'est bien ça leur idée. À côté des Sadducéens, ce qui les fascine, c'est le culte. Les Esséniens, ce qu'ils attendent, c'est un culte parfait. Et Jean-Baptiste va dire, si on veut se préparer au royaume de Dieu, la question principale, c'est celle de la justice. Dans ce contexte-là, Jésus émerge en disant que le royaume de Dieu, c'est une rencontre miséricordieuse avec le Père, et que donc c'est la miséricorde qui nous prépare à vivre le royaume. Donc il y a bien un élément de continuité-discontinuité entre le message de Jésus et les différents groupes qui faisaient le judaïsme du 1er siècle. Donc Paul, pharisien, fils de pharisien, d'une famille sûrement un peu nationaliste, quand on appelait son fils Saül sous Hérode le Grand, c'est comme l'appelait Charles en 42, ou l'appelait Philippe d'ailleurs, au même moment. Et comment s'appelait le fils de Charles d'ailleurs? Non, c'est autre chose. Il y avait sûrement cet aspect-là. Culture grecque, formation rabbinique dans la tradition pharisienne, un homme zélé, le texte là, qui nous dit, il faisait tout ce qu'il fallait, il était selon la justice de la loi rendue parfaite, il nous dit en Philippiens. Et puis citoyen romain, ça il n'en parle jamais, c'est Luc qui en parle, mais l'itinéraire de Paul ne s'explique pas s'il n'est pas citoyen romain, s'il n'a pas, alors de temps en temps ça lui sert à sauver sa peau, mais il a aussi une vision romaine du monde. On l'appelle l'apôtre des nations, il n'a pas quitté l'Empire. C'est-à-dire Thomas, qui va jusqu'en Inde selon la tradition, mériterait bien l'avantage d'être l'apôtre des nations. On pourra voir pourquoi il a ce titre-là, mais lui, il n'a pas quitté l'Empire. Il est romain dans sa compréhension administrative, commerciale, et dans sa connaissance des routes et des moyens de transport. Donc trois univers, romain, grec et juif. Quand Dieu dit à Ananie, pour l'aller faire baptiser dans les actes, j'ai un instrument de choix pour annoncer l'évangile, là, on voit déjà que là, cette triple appartenance fait partie de cet instrument de choix. Au tout début, après la mort et la résurrection de Jésus, il entend parler, il entend l'évangile, il entend les premiers disciples de Jésus annoncer cette résurrection. Il semble même que, si on regarde de près la liste des personnes qu'il présente dans la lettre aux Romains, que des membres de sa famille sont devenus chrétiens avant lui. Donc voilà, le phénomène Jésus, l'évangile, a déjà percuté la famille et l'histoire de Saül de Tarse. Et il le dit, son zèle de pharisien l'enjoint à persécuter l'Église. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? La synagogue a un règlement et prévoit des sanctions. Parmi ces sanctions, il y a les 39 coups de bâton, on a ça en Deutéronome 24. Et on s'arrêtera à 39 parce que 40, ça pourrait faire mal. On apprécie l'attention quand même. Donc il peut y avoir des châtiments corporels, il peut y avoir des sanctions, des exclusions, il peut y avoir des lynchages, comme il y a eu pour le martyr d'Étienne, puisque Étienne étant accusé d'avoir blasphémé contre le temple, les Romains acceptaient que dans ces circonstances-là, il puisse y avoir... C'est pour dire que c'est tout sauf évident de savoir ce que Paul faisait concrètement comme persécution de l'Église. Comme citoyen romain, il ne pouvait pas contre... Enfin, il ne pouvait pas. Il pouvait faire ce qu'il voulait, bien sûr, mais je le vois mal contrevenir à la loi romaine. Aller dans les synagogues, chasser les disciples de Jésus, leur faire avoir des châtiments corporels, tout ça, ça me paraît assez vraisemblable et suffisant. On parlait de persécution. Pourquoi se déplace-t-il? Il est d'une famille de commerçants, de fabricants textiles, dans laquelle il y a deux types de personnes qui travaillent, soit ceux, les ouvriers qui transforment la matière première, soit ceux qui acheminent la matière première ou le produit fini. Et il est de la deuxième catégorie. Et donc Paul va, en voyageant, va de ville en ville, donc de synagogue en synagogue. Il est pharisien et donc il a l'espérance de pouvoir renouveler Israël par la fidélité à la Torah. Et puis il y en a d'autres qui parlent de Jésus et là, ça colle. Alors qu'est-ce qu'il leur reproche ? Absolument pas un problème de loi. À cette époque-là, hein, on est avant 34, donc on est, on va dire, dans les 3-4 premières années après la résurrection de Jésus. Tous les disciples de Jésus sont juifs. Donc le problème n'est absolument pas de savoir si on mange kasher ou pas, si on doit être circoncis ou pas. Ils mangent tous kasher, ils sont tous circoncis, et encore une fois, le judaïsme est suffisamment varié pour qu'il y ait une autre manière de faire. Qu'est-ce qu'il leur reproche ? Une chose essentielle. Dire que le Messie, c'est ce Jésus crucifié. Et ça, c'est fou et c'est scandaleux. Et quand on dit fou, c'est parce qu'on parle bien, mais d'autres termes plus triviaux pour le dire. Ça, chez Paul, ça suscite une violence, parce que c'est un blasphème. La vocation du Messie, c'est de venir donner la bénédiction promise à Abraham. Un crucifié, c'est un paria et un maudit. Comment voulez-vous qu'un maudit et un paria puisse donner la bénédiction promise à Abraham. C'est pas possible. Soutenir ça, il faut être débile, stupide ou blasphématoire. Mépriser la bénédiction de Dieu. Il le dit dans la première lettre aux Corinthiens, nous on annonce un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, on pourrait même plutôt dire débilité pour les païens. C'est plutôt ça le mot débile au sens le plus étymologue du terme, à la fois de la folie et puis de la faiblesse. Et ça, c'est la réaction du Paul à ce moment-là, enfin de Saül à ce moment-là. Pour lui, c'est fou, c'est débile, c'est scandaleux. Et sa réaction est une réaction de violence. Quelle que soit la manière dont celle-ci s'est exprimée concrètement. C'est important de bien souligner ça, parce que je crois que c'est important de le souligner dès maintenant. Paul est celui qui va insister le plus sur ce qu'il appelle le langage de la croix. Pour dire, c'est quelque chose que vous pouvez facilement comprendre, il a buté là-dessus, il a buté sur cette idée du Messie crucifié. Une fois que le Messie s'est révélé à lui, ce qu'on est en train de voir, une fois qu'il s'est passé sur la route de Damas, ce qui faisait l'obstacle va au contraire devenir pour lui quelque chose d'important. Et il va pouvoir donner à la communauté chrétienne l'importance de la croix. J'avais un de mes profs à l'école biblique, Luffy O'Connor, qui disait « On n'aurait pas eu Paul, on n'aurait pas eu les récits de la Passion. On aurait eu, en quatre lignes, ils l'ont arrêté, mis en procès devant Anne, Caïphe, Pilate, etc. Porté la croix, crucifié, mis au tombeau. » Ça tient en un paragraphe. Raconter, je ne sais pas si vous... Le récit de la Passion, mise au tombeau chez Saint-Marc, c'est 20% de l'évangile. Les 36 heures qui prennent 20% du texte. Et on raconte des détails, non pas pour faire pleurer, parce qu'ils sont inutiles, on raconte des détails pour donner sens à ce qui se passe. Pour moi, le plus significatif, c'est le partage des vêtements. Ça ne sert à rien de le raconter parce que ça fait partie du droit romain que l'on partage les vêtements. Les soldats prennent les vêtements, les partagent et les vendent à la famille pour récupérer l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Le raconter n'a pas d'intérêt. Sauf pour faire le lien avec le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et un petit peu plus loin, c'est comme si j'étais mort, ils sont déjà en train de vendre mes vêtements. Donc, ce souci de vouloir donner du sens au moindre détail du récit de la Passion, ça c'est Paul qui l'a appris à la communauté chrétienne. Lui qui a eu du mal à accueillir Messie crucifié, il va être au contraire celui qui va être capable de donner ça à la communauté. Alors comment ça s'est passé ? Il le dit tout simplement. Celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Alors il cite Jérémie, ça c'est pas grave. vous enfermez ? Non ? Donc, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, et le verbe mettre à part, c'est pratiquement une allitération avec le mot pharisien. C'est-à-dire, toute mon expérience de pharisien, c'est une préparation à cette rencontre. Alors, on va revenir là-dessus. Il a révélé le Fils pour moi. Vous connaissez peut-être le récit de Luc qui raconte comment le ressuscité lui apparaît. Luc raconte quelque chose qui est extérieur. Quelqu'un apparaît à Paul. Là, il le raconte comme quelque chose d'intime, comme quelque chose d'intérieur. Le Père révèle son Fils en moi. Autrement dit, ce Messie crucifié Jésus, par la puissance de la résurrection, est désigné par le Père comme étant le Fils de toute éternité. C'est un des éléments essentiels, constitutifs de notre foi en la résurrection. Paul fait cette expérience intérieure et du coup il rajoute, grammaticalement, on pourrait poser la question, qui est Fils ? Alors c'est bien évidemment Jésus qui est révélé comme Fils, mais du coup Paul est aussi, accède lui aussi au statut filial à l'égard du Père. On va le dire un tout petit peu plus loin, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est le Fils qui vit en moi. À partir du moment où il y a cette révélation du Fils en lui, lui a accès au statut filial. Et c'est le point de départ de l'expérience de Paul.
Ce que tu dis convient, c'est de révéler en moi son Fils, ça pourrait presque être compris grammaticalement. De me révéler que j'étais son Fils.
Oui,
c'est ça.
Oui, oui.
Les deux sont en même temps.
C'est bien la révélation objective de Jésus comme Fils. Mais puisque c'est quelque chose qui se produit en lui, lui aussi accède à cette dimension filiale. Et c'est là tout le discours sur la grâce et la liberté du chrétien dont nous avons asséné nos étudiants, Laurent et moi, pendant un semestre entier. Voilà. Et la grâce, alors il va prendre tout un tas de vocabulaire. Le mot de la grâce vient du vocabulaire biblique, le recède en hébreu, mais il vient aussi du vocabulaire romain. Le souverain donne une faveur, donne la faveur de pouvoir, donne la faveur de pouvoir accéder à sa présence. La grâce, c'est d'abord ça. Paul fait l'expérience selon laquelle il accède à Dieu. En vertu de quoi ? En vertu de la révélation du Fils. Et puis en vertu de la loi. Alors c'est là où, si on veut parler d'une rupture, si on veut utiliser le mot de conversion, il y a quand même un changement de paradigme pour le moment. Comme pharisien, il était habité par cette conviction que la fidélité comprise comme obéissance aux préceptes de la Torah, jusque dans le moindre détail, c'était quelque chose qui le rapprochait de Dieu. Avec cette expérience-là, il change de paradigme. La fidélité, c'est Dieu qui le rejoint et qui lui permet de vivre. Et que du coup, la loi n'est plus... Alors, bien évidemment, le décalogue, ça fonctionne toujours, mais les préceptes alimentaires, le culte, non pas qu'il va les maîtriser, mais non plus cette importance d'accès au Père. C'est pas, et je le dis, c'est pas ce qu'on mange qui nous rapproche de Dieu. Il est même un peu trivial à ce moment-là, on sait comment ça part. Voilà. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la foi et l'observance des commandements. Le décalogue, quand il parle des œuvres de la loi qu'il veut tenir à distance, il trouve toujours un moyen de mettre le décalogue à part, pour tout un tas de raisons évidentes. Donc voilà, c'est ça l'expérience première de Saül, c'est de voir que tout l'effort qu'il faisait pour rejoindre Dieu, finalement, c'est Dieu qui vient le rejoindre. Et que cette loi, cette Torah, et en hébreu ça veut dire enseignement, c'est sûrement beaucoup plus précis, cet enseignement lui est donné pour pouvoir décrire l'itinéraire par lequel Jésus le rejoint. C'est pas ce qu'il doit faire lui pour rejoindre, mais la Torah, comme prophétie, décrit ce que Jésus fait pour venir rejoindre l'humanité comme fils de Dieu qui rejoint les hommes. Ça va pour ça, pour ce changement? S'il y a conversion, s'il y a changement de paradigme, c'est là. C'est vraiment à cet endroit-là que ça se situe. Ce qui est important aussi, le texte est très précis là-dessus, aussitôt, je partis l'annoncer. C'est-à-dire, faire l'expérience de Jésus ressuscité, c'est la révélation de cette vie filiale, et c'est l'obligation d'annoncer Jésus. Il ne fait pas de distance. Il ne dit pas qu'il faut aller à l'école cathédrale pour suivre les cours. Comment ça? Il y va tout de suite. Il y a deux raisons qui expliquent ça. Parce qu'on est un peu étonné. Peut-être parce qu'on devrait, nous, y aller plus facilement et en parler plus facilement. Première chose. L'évangile, c'est simple. C'est nous qui sommes compliqués dans la tête, et du coup, on est obligé de faire des circonvolutions. Et l'évangile, c'est simple. L'accès à la vie filiale devant le Père. Voilà. Il faut savoir le rendre simple. Et puis, deuxième chose, sa vie pharisienne, mise à part pour l'Évangile, son expérience de juif pharisien, c'est sa formation. On pourrait dire, enfin on peut dire, je le dis, c'est quelque chose qu'il a travaillé en creux. Par exemple, les pharisiens, quand ils prennent leur repas, ils le commencent par la fraction du pain, la bénédiction de la coupe, dans la tente du royaume. Paul a fait ça tous les jours de sa vie. On ne le raconte pas parce qu'on ne raconte pas les choses ordinaires. Mais comme pharisien, il a fait ça. Quand il est baptisé par Ananie à Damas, et quand il est initié au mystère du Christ, on lui raconte pas que Jésus a pris du pain, l'a rompu, on lui dit, le dernier soir de sa vie, il a dit, ceci est mon corps et ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Il n'y a pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Il y a un creux en lui, ce geste devient une sorte de creux que le corps du Christ vient remplir. Et c'est comme ça qu'il va comprendre toute son expérience juive, c'est comme ça qu'il va lire la Torah, c'est comme ça qu'il va lire les prophètes. Elles sont un creux que le corps du Christ est venu remplir. Et donc, lire la Torah, lire les prophètes, l'interpréter, et bien c'est comme pour un moulage. C'est ça qui va nous permettre de décrire le corps du Christ qu'on n'a pas vu. Le mot technique pour les savants parmi nous, c'est la typologie. En grec, le typos, c'est le creux de la chevalière. Alors ça veut dire exemple, typos en grec, ça veut dire aussi les plaies qui sont dans le corps du Christ, les plaies faites par le pouls. Et donc l'écriture devient pour Paul typologie. Elle devient un creux que le corps du Christ vient remplir. Et du coup, il n'a pas besoin d'aller à l'école cathédrale. Il a déjà fait tout ça. Il a fait tout cet itinéraire-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va le faire d'un coup d'un seul. On voit tout un... Quand on prend les lettres dans l'ordre, on s'aperçoit que l'écriture devient de plus en plus citée, que la méditation et l'argumentation est de plus en plus structurée, de plus en plus complexe, de plus en plus riche. Tout ça, c'est vrai. Bon, la première lettre, la première aux Thessaloniciens, il y a très peu de références scripturaires, mais ça va venir petit à petit et très fortement. Donc, cet événement sur la route de Damas, c'est l'accès à la vie filiale, c'est l'impératif apostolique, annoncer le Christ, et comment Paul comprend-il sa vie à ce moment-là? Comme apôtre, c'est-à-dire comme représentant avec autorité. L'apôtre, c'est pas simplement quelqu'un qui va et qui parle comme ça de sa propre initiative. Non, c'est un représentant avec autorité pour parler de celui dont il parle. On pourrait presque dire plénipotentiaire, avec un peu d'anachronisme et d'abus. Donc là, c'est un des changements. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Rien, il était voyageur avant, il reste voyageur après. Et pendant bien 4-5 ans, il reste à voyager pour des motifs privés. Mais il profite de ses voyages pour, dans les synagogues, annoncer l'Évangile, parce qu'il croit maintenant que ce n'est pas la fidélité à la Torah qui va renouveler Israël, mais c'est la puissance de l'Évangile, la puissance de la résurrection de Jésus qui va renouveler Israël pour permettre à Israël d'être fidèle à sa mission, à savoir être la lumière des nations. Là, c'est une conviction pharisienne très forte. Israël, lumière des nations, il faut renouveler la vigueur et l'ardeur du peuple pour qu'il soit fidèle à sa vocation. C'est dans un deuxième temps, d'une part, qu'ils vont planifier la mission, c'est-à-dire qu'après, au départ, on a une mission d'occasion. Je profite des voyages pour... Puis à un moment, on se dit, ben, on ne va pas partout. Donc on va planifier la mission, donc on va la financer. Et c'est le premier voyage missionnaire qui nous est raconté dans les Actes, avec Barnabé et Jean-Marc, qui est vraisemblablement l'évangéliste Marc. Et donc on planifie une mission, on va de synagogue en synagogue. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? De quoi s'aperçoit-on, pardon ? Eh bien, que c'est, ça n'intéresse pas Israël, mais qu'il y a des païens qui sont intéressés. Et donc c'est dans cette expérience-là qu'on découvre qu'il y a des non-juifs qui accueillent l'Évangile. Et il y a une très belle phrase dans la première aux Thessaloniciens. Tout le monde raconte, ce sont des païens, enfin des chrétiens d'origine païenne. Tout le monde raconte comment vous vous êtes détourné des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai qui a relevé son Fils Jésus d'entre les morts, qui nous arrache à la colère qui vient. Donc en entendant parler de Jésus ressuscité, des païens se sont mis à croire au Dieu unique en se détournant des idoles. Et là, il y a quelque chose d'absolument inouï et inattendu, qui va nécessiter pour Paul, Barnabé et la communauté chrétienne toute une réflexion, dont une partie de cette réflexion s'appelle le Concile de Jérusalem, même si historiquement ça pose bien des questions. Est-ce qu'on s'ouvre ou pas aux païens ? Ou est-ce qu'on les oblige à devenir juifs ? Ou bien est-ce qu'on les laisse ne pas manger cachère, ne pas être circoncis, etc. Là, Paul va remporter la bataille pour dire on s'ouvre aux païens, etc. Et ça va être la troisième étape de la mission, une mission directement adressée au milieu païen. Vous voyez qu'il y a une progression qui se fait tout au long de son itinéraire et qui est jalonnée par des rencontres avec le ressuscité. On va lire le dernier texte. Celui de la deuxième aux Corinthiens. Qui veut bien en faire la lecture ? C'était bien fait. Continuons. Le dernier.
Faut-il faire le fier ? C'est bien inutile. Pourtant, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps ? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps ? Je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ? Était-ce sans son corps ? Je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de revivre. De cet homme-là, je serai fier et, pour moi, je ne mettrai ma fierté que dans mes faiblesses.
Ah, si après ce texte-là, vous savez ce que Paul a vécu, écrivez, publiez, bon, ça intéressera. Vous voyez qu'il ne dit pas grand-chose. Il parle du troisième ciel. Dans la cosmologie juive, il y a sept ciels. Le troisième, c'est celui de l'expérience mystique. Donc voilà, le cadre est donné. Quand on regarde les dates, là, quand il dit, parce qu'il donne des précisions, ça cadre avec une autre, c'est la même apparition qui est racontée dans les Actes des Apôtres chapitre 26 et qu'on appelle l'apparition au Temple. C'est-à-dire qu'au cours du Concile de Jérusalem, enfin au cours de la présence de Paul à Jérusalem à l'occasion de ce fameux Concile, cette fameuse réunion d'apôtres, il bénéficie d'une apparition du ressuscité et il semble que ce soit celle-là qu'il raconte dans ce texte-là. Et que c'est une expérience qui transcende le corps. Est-ce que c'était avec mon corps ? Est-ce que c'était sans mon corps ? Qu'il le transfigure ? Je ne sais pas, comment dire ? C'est difficile à appréhender. Ce n'est pas une expérience hors du corps comme une extase. C'est une expérience qui concerne le corps, mais qui va au-delà. Et puis, s'il a entendu des choses, il n'a pas le droit de leur dire. Là, les Corinthiens, ils ont fait « Oh, ils voudraient savoir. » Alors, il faudrait regarder tout le contexte de la deuxième aux Corinthiens pour savoir comment tout ça s'argumente et comment c'est situé. Mais j'ai retenu ce texte-là uniquement pour dire du point de vue de celui qui rencontre le ressuscité, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est pas clair, c'est pas précis, il n'a pas le droit de le raconter. Voilà. Mais finalement, c'est, je crois, une vraie leçon de vie spirituelle. C'est-à-dire que tout est concerné par la rencontre avec le ressuscité. Toute la vie charnelle, toute l'existence. Et c'est Dieu lui-même qui la prend en charge. Dans la lettre aux Galates toujours, ces éléments très très forts, je suis co-crucifié avec le Christ, ça n'est plus moi qui vis, Christ vit en moi, et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Là, il y a aussi le corollaire de cette expérience mystique. À partir du moment où il y a eu cette rencontre, je ne m'appartiens pas. C'est mon corps, c'est pas mon corps, je sais pas, parce que je suis membre du corps du Christ. Donc Luc a raison de pointer le dialogue sur la route de Damas, je suis Jésus que tu persécutes. Autrement dit, la conscience ecclésiale que Paul a, pour un peu, il serait capable d'écrire la lettre aux Éphésiens le lendemain matin de sa conversion, qui est sa lettre avec la plus grande conscience ecclésiale. Il a mûri un peu tout ça. Luc ne s'intéresse pas au développement. Mais quand même, dès qu'il a vu le ressuscité, en tout cas c'est ce qu'il nous dit, il a conscience qu'il est membre du Christ. Avec mon corps, sans mon corps, il n'appartient pas. Et la lettre aux Galates qui dit encore une fois « Je suis crucifié avec le Christ », c'est-à-dire que mon être au monde, c'est l'être au monde de ce ressuscité et crucifié, de celui qui est éternellement ressuscité, mais qui est éternellement livré aux mains des hommes, les deux. Eh bien, toute ma vie est déterminée par cette appartenance au Christ. Dans la lettre aux Galates, l'avant-dernier verset, chapitre 6, je ne sais plus si c'est 14 ou 15, il dit qu'il a les stigmates du Christ. Alors, il ne s'agit pas du phénomène spirituel de François d'Assise ou d'autres. Les stigmates, c'est la marque qu'un maître met sur les esclaves qui lui appartiennent. Alors, ça peut être un poisson, voilà. Ça peut être plus cruel avec une marque au fer rouge ou autre chose. Mais Paul dit que ses blessures, parce qu'il a pris des coups quand même, et beaucoup, ses blessures sont des stigmates, sont les marques de son appartenance au Christ. Et je trouve que l'image est très violente, certainement, mais en même temps très parlante, pour cet autre être que devient l'apôtre une fois que le Christ s'est révélé à lui. Troisième texte que je vais vous faire voir, puis je vais vous laisser le temps des questions après. Qui peut lire le deuxième ? Allez, on continue. Allez.
Non, je n'ai pas de mal, mais Jésus-Christ, Seigneur, vous pourrez l'avenir. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Dieu. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ.
Alors c'est le dernier verset qui m'intéresse dans ce texte-là. Il y a une citation de la Genèse, celui qui a dit que la lumière soit, pour dire, je crois, enfin je l'interprète comme ça, c'est un des autres lieux où Paul raconte l'épisode de la route de Damas. Il y a la gloire de Dieu qui a, alors cette fois-ci il en parle comme un événement extérieur, la gloire de Dieu a brillé sur le visage de Jésus-Christ, et que du coup cette gloire a pu l'habiter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se réfère à la création. Autrement dit, il y a une continuité entre l'agir de Dieu qui crée, que la lumière soit, la lumière apparaît, et la résurrection de Jésus, par lequel, dans les ténèbres de l'humanité telle qu'elle est, La gloire de Dieu brille sur le visage de Jésus, et c'est un événement de recréation. Alors juste un tout petit peu plus loin, un chapitre plus loin, il parle de la nouvelle création, qu'est le corps de Jésus-Christ lui-même. Donc l'expérience de Paul sur la route de Damas, c'est aussi l'expérience de devenir une créature nouvelle, un être complètement nouveau, mais on retrouve en même temps l'élément de continuité. C'est pas une création à partir de rien, c'est une création qui a été commencée depuis que la lumière soit, que Saül soit, et puis maintenant, il devient quelqu'un d'autre. Avant de vous laisser poser des questions, je voudrais juste finir en disant qu'il devient quelqu'un d'autre, il ne se fait plus appeler Saül, il se fait appeler Paul. Je ne sais pas à vous que j'ai demandé comment ce que ça veut dire en latin, non, quand même, si. Comment ça veut dire le minus. Ah, voilà, le minus. C'est étonnant. Il y a quelqu'un qui va laisser un quart du Nouveau Testament en signant le minus. Voilà. Vous voyez le changement ? Alors, il n'était peut-être pas très grand. On a le portrait de lui qu'on a, qui est du deuxième siècle. On ne fait pas un homme très costaud, très robuste. Voilà. Mais il signe le minus. Et alors, c'est là l'illustration forte d'une phrase qu'il écrit et qui laisse à méditer beaucoup. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui dit d'ailleurs juste après le texte de la deuxième intervention, après l'apparition, le récit de son expérience extatique. Voilà. Donc de quoi je vais être fier ? Ben, je vais être fier de mes faiblesses. Pas de l'apparition, mais de ma faiblesse. Parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc là, on a une autre transformation de Saül. Parce qu'il a vu le ressuscité, il accepte d'être Paul, le minus, parce que dans sa vie, c'est pas sa force qui se déploie, c'est celle de Dieu. Voilà un premier tour, en trois quarts d'heure. Mais vous avez fait le choix.
La première, c'est biographique sur Paul, quand il dit que j'ai eu une charte dans ma chair, ouais. Et puis après on a bulldozé, juste comme c'était. Alors, est-ce que vous avez des.
Alors, un, on ne sait pas, deux, j'ai des réponses.
C'est juste une charte.
Je suis prêt, qui c'était. Enfin, bref,
alors, il y a plusieurs choses qui sont effectivement avancées. Je pense qu'il faut tenir compte dans la chair, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre, c'est son péché, c'est son mauvais caractère, tout ça on laisse de côté, parce que sinon il n'aurait pas dit dans la chair. Ça veut dire qu'il souffre physiquement de quelque chose. Après ça, la vie de Paul est suffisamment compliqué puisqu'il nous raconte qu'il a été lapidé une fois, flagellé trois fois, cinq fois les 39 coups de bâton, trois naufrages, une fois sur l'abîme, et ça c'est avant le naufrage qu'on nous raconte à la fin des actes. Bon. Alors peut-être que Luc l'a déplacé, hein, d'accord. Bon, c'est pas une vie facile. Plus le reste du voyage, etc. Si on s'en tient à la lapidation c'est une belle capitale, on enterre la personne en lui lançant des cailloux. Comment il s'en est réchappé ? Par miracle, même s'il a fallu quelques compagnons, les disciples fassent un peu le boulot quand même. Une possibilité, c'est qu'il ait pris des cailloux sur la tête à ce moment-là, qui ait pu occasionner deux types de troubles. Des troubles visuels, puisqu'il dit aux Galates, vous auriez pu vous arracher les yeux pour moi. Voilà. Alors, est-ce que c'est métaphorique pour dire vous étiez prêt à tout pour moi ? Ou est-ce que ça se réfère quand même à une expérience de difficulté visuelle ? Deuxième hypothèse, qui est présentée par De Lubac dans le drame de l'humanisme athée, au moment où il parle de Dostoïevski, c'est des crises d'épilepsie. Alors, ce qui, là, pour le coup, est extrêmement invalidant, parce que dans le monde antique, la crise d'épilepsie, c'est un phénomène démoniaque. Imaginez que vous vous trouviez sur le forum en train d'annoncer Jésus ressuscité et... Ça ne fait pas bonne pluie. Voilà. Mais si c'est ça, il s'est vraisemblablement passé des choses comme ça. Et que du coup, ben, la faiblesse de Paul est le terreau pour montrer que l'évangile, c'est pas une force qui vient de lui, c'est une force qui vient de Dieu. Si vous y avez cru, c'est pas parce que j'étais brillant, compétent, en bonne santé et fort. C'est parce que c'est la puissance même de Dieu. Bon. Pour les charges, je crois qu'il faut d'abord être prudent. Il faut maintenir quelque chose de physique et quelque chose, dans la manière dont il en parle, quelque chose de vraiment invalidant pour la prononce de l'évangile. C'est pas simplement un bras cassé, quoi. Même si ça pouvait être un problème. C'est pas simplement une écharpe dans le bout de la main, quoi.
Hein, ça peut être hyper invalidant. C'est plein,
les écharpes. Non, mais pas parce que c'est pas invalidant parce que ça rend difficile, c'est invalidant parce que ça décrédibilise sa parole. C'est ça que nous disons qu'il faut répondre. Il y avait une deuxième question.
Il y a une deuxième question. C'est connexe parce que vous avez été très précis en disant, montrant à quel titre, par exemple, Saint Paul, pharisien, persécuté, chrétien, ça veut dire la condamnation de Jésus, en fait. Parce que, est-ce que c'est comme roi des Juifs, comme fils de Dieu? Parce que moi, j'avais entendu dire, mais c'est un très très vieux souvenir, que pour les Romains, pour Pilate, c'est comme roi des Juifs, ce qui est paradoxal, ou comme agitateur. Enfin, disons, roi des Juifs, c'est le titre, c'est ce qui est écrit sur, au-dessus de la croix, mais que pour Caïphe, et pour les Juifs, c'est fils de Dieu, parce qu'à ce moment-là, il y a blasphémé. Alors comment s'articulent en fait les deux griefs? Et juridiquement, qu'est-ce qu'ils condamnent en fait?
Alors, en fait, les deux condamnent, mais ils s'en foutent du motif. C'est un échange. Le Sanhédrin, le grand prêtre, condamne Jésus. Le motif qu'ils cherchent, c'est l'accusation sur le temple. Parce que du coup, ça leur permettrait d'éviter la case Pilate. Ils pourraient. Voilà. Pour ça qu'il faut venir des faux témoins. Voilà. Puis Jésus ne répond pas parce que quelqu'un qui porte faux témoignage et qui est convaincu de faux témoignage encourt la peine qu'il a fait risquer. Voilà. J'ai porté faux témoignage. Par ce faux témoignage, l'autre risque la peine de mort. Mon témoignage est reconnu comme faux. C'est moi qui risque la peine de mort. Et donc le silence de Jésus, c'est « je ne veux pas la mort du pécheur ». Mais qui se convertit.
C'est sublime, ça.
Quoi ?
C'est sublime.
C'est sublime, oui, c'est vraiment fascinant. Alors après ça, n'y arrivant pas du côté du temps, il le coince sur un pseudo-blasphème qui n'en est pas, il dit « vous verrez le Fils de l'homme revenir sur les nuées du ciel ». Et donc, voilà, il donne rendez-vous, il dit « écoutez, qu'est-ce qui fera justice ? Ben, c'est quand vous le verrez revenir sur les nuées du ciel. » Après ça, devant Pilate, Jean nous montre un Pilate qui s'amuse comme un petit fou. « Vous voulez que je vous relâche le roi des Juifs ? Non ! Il n'y a pas de petit bonhomme là. » Les Juifs l'emmerdent à pied au point, et là, il réussit à les rouler dans la farine en leur faisant dire « nous n'avons pas d'autre roi que César ». Oh, ça, c'est une bonne journée, quand même. Voilà. Mais les deux procès ne coïncident pas.
Oui,
parce que tout le monde essaye de trouver son petit arrangement.
D'accord.
Il n'y a pas. Enfin, l'annulation est un.
J'étais innocent,
Jean-Benoît. Mais.
Que l'apôtre, c'est pas seulement celui qui va annoncer Jésus, mais c'est celui qui a reçu une autorité pour le faire.
Ouais.
Et les douze, ils ont connu Jésus, ils ont vu le toucher. D'où saint Paul tire la délégation de Jésus.
Parce qu'il a vu Jésus ressuscité. Alors, il y a plusieurs éléments historiques, sémantiques, théologiques qui viennent de spirituel. Dans l'évangile de Marc, les douze sont appelés les douze. Et du coup, Paul, le titre d'apôtre dans les écrits de Paul, décrit quelqu'un qui a vu le ressuscité et qui l'annonce aux autres. C'est Luc, dans un livre qui s'appelle « Les actes des apôtres », qui va donner un sens théologique, ecclésiologique plus précis au terme pour dire, pour identifier les apôtres et les douze. Voilà. Et il donne une définition très précise avec l'élection de Matthias au tout début. Il faut trouver quelqu'un pour remplacer Judas, dit Pierre, quelqu'un qui a suivi Jésus du baptême jusqu'à l'ascension, témoin du ressuscité. C'est ça un apôtre pour Luc. Et étonnamment, Paul ne rentre pas dans cette définition. Et Luc n'appelle jamais, sauf une fois, plutôt par distraction. Ben oui, il a fait du copier-coller, il a oublié de corriger le temps des verbes, hein, à peu près. Hein. Sauf une fois, jamais Luc n'appelle Paul un apôtre. Ce qui est contraire à ce que Paul disait de lui. Donc là-dessus, ça ne se comprend que parce qu'il y a eu une évolution théologique du terme, qui au départ désignait quelqu'un qui a vu le ressuscité et qui l'annonce, et qui va devenir le terme pour désigner le collège des douze, qui garantit et qui normalise le message de tous ceux qui annoncent Jésus. Alors, Balthazar a une très belle réflexion à partir de ça, pour bien mettre la singularité de Paul dans le maillon de la tradition de l'Église. Les apôtres, les douze, on va essayer de ne pas utiliser le mot apôtre, parce que maintenant on sait que c'est figé. Les douze, ils ont vécu avec Jésus de Nazareth, et ils ont vu Jésus ressuscité. C'est pas juste. Nous, ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Enfin, au moins que vous l'ayez vu ressuscité, ne le dites pas tout de suite, je l'ai déjà vu. Par contre, Paul, comme les douze, il a vu Jésus ressuscité. Comme nous, il n'a pas connu Jésus de Nazareth. Et donc, c'est un maillon essentiel pour que l'expérience de tous les baptisés soit bel et bien la continuité de l'expérience des douze autour de Jésus, avant la mort, après la résurrection, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce soir. Avec cet autre élément que je vous disais tout à l'heure sur l'importance de la croix chez Paul, toujours Paul, quand il écrit, les lettres de Paul sont toujours des écrits d'occasion, c'est-à-dire on lui pose une question, il répond. Il répond jamais en citant les paroles de Jésus, sauf deux, trois fois, tout à fait par hasard. Il répond toujours en argumentant sur la mort et la résurrection de Jésus. Et donc le maillon que Paul représente dans la tradition de l'Église, c'est bien nous qui connaissons la vie de Jésus, parce qu'on a lu les évangiles, on les connaît peut-être par cœur, on a notre phrase préférée, on a notre épisode qui nous fait du bien, etc. Paul est celui qui nous apprend à faire reposer cette amitié avec Jésus sur sa mort et sa résurrection. Il y a vraiment une place très singulière dans la tradition. Et ce terme d'apôtre qui lui échappe, en fait, on est aussi.
Je me demande si on ne peut pas prolonger même en disant que d'abord, la résurrection, c'est pas le dernier épisode du film qui fait que quand on arrive tellement tard au cinéma qu'on a juste la fin, on dit « j'ai raté l'essentiel ». En fait, ça contient ce qui précède. C'est-à-dire que si on avait que raté la mort et la résurrection, c'est tout raté. Et avoir la mort et la résurrection, c'est tout avoir. Et Paul en est, comme il dit, je suis pas moins apôtre que les autres, même s'il n'a jamais marché en Galilée avec Jésus. Et c'est vrai, et nous, on ne voit pas le ressuscité. Mais on est plongé quand même dans la mort et la résurrection de Jésus. En fait, il ne manque rien.
Parce que le corps de Jésus, c'est pas la chair de Jésus. C'est plus que le corps, c'est plus que la chair. Le corps, c'est la présence de Jésus au monde, qui se fait dans la chair. Et donc le corps de Jésus ressuscité, c'est effectivement toute l'expérience de Jésus de Nazareth présent au monde, qui est vécue dans la seule rencontre d'un instant.
Du coup, ma question est liée à ça, c'est est-ce que Paul a été évangélisé ? Est-ce qu'il y a les apôtres qui lui ont raconté ou est-ce que le seul fait de la rencontre de Jésus de Nas a suffi à...
Alors, il y a deux versions. Il y a celle de Paul dans Galates et il y a celle de Luc dans les Actes. Et les historiens disent, c'est peut-être Luc qui a quand même raison. Dans les Actes, il dit personne. Alors, j'essayais d'en rendre compte avec cette expérience de pharisien, cette expérience en creux, remplie par le corps de Jésus. N'empêche qu'il a été baptisé, dans les actes à Ananie. N'empêche que l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, on lui a appris. Je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu. Cette expression, je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu, il la reprend aussi pour l'annonce de Jésus mort et ressuscité, hein. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il est mis au tombeau, il est ressuscité. Le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu à Képhas et aux douze. Voilà, ça c'est pas de lui, il l'a appris. Donc il a été catéchisé. La communauté de Damas, une petite communauté chrétienne, il y avait pas mal de juifs pharisiens qui étaient réfugiés à Damas, qui étaient en difficulté avec les Hérodiens, donc qui étaient réfugiés là. Et donc il y a une communauté assez importante, au sein de laquelle il y a des disciples de Jésus. Et cette petite communauté va catéchiser Paul. Le fait qu'il ne cite pratiquement pas de paroles de Jésus, à part les paroles de la consécration, et puis une ou deux expressions qui lui reviennent un peu machinalement sous la plume, c'est à mon sens plus de l'ordre du choix que de la non-connaissance. Il choisit cela. Non pas que les évangiles, les lettres de Paul sont toutes rédigées avant les évangiles, à peu près. Mais ce n'est pas parce que les évangiles n'étaient pas rédigés qu'il n'y avait pas des textes, des notes, tout simplement, qui servaient justement aux apôtres. Qu'est-ce que Jésus disait, qu'est-ce qu'il a fait, enfin, donc il y avait déjà des bouts de textes qui circulaient. Et je ne vois pas pourquoi Paul n'aurait pas eu connaissance de ces textes-là. Mais il choisit de ne pas argumenter là-dessus. C'est ça qui est important.
Ta question, Gabriel, me fait penser à quelque chose qui permet de dire, en fait, et Paul et Luc ont raison. Tu vois, il y a des cas, je pense à des conversions comme celle d'André Crossard, il y en a eu d'autres au XXe siècle, bon, l'expérience indicible, toujours un peu mystérieuse, de gens qui n'étaient pas du tout chrétiens, même athées. Enfin, bon, ils rencontrent le Christ. Après, ben, ils sont catéchisés. Et en fait, André Crossard, mais ça arrive à d'autres personnes. Mais quand on m'a catéché, j'avais l'impression de savoir déjà ce qu'on apprenait. Il n'aurait pas été capable d'écrire le catéchisme. Mais il entend le catéchisme. Il dit, mais ça, je le savais, je l'ai reçu quand j'ai eu cette expérience. Je me dis, il y a peut-être eu un peu de ça. Alors, selon où tu mets l'accent, tu peux dire, ben oui, il est quand même allé au banc de l'école du catéchisme pour me dire, mais j'avais. Quand j'ai rencontré l'université, j'avais déjà tout, en fait.
Et puis alors, la lettre aux Galates, il veut bien, il a un objectif très très clair.
Oui, ça, en plus, ça fait partie de son,
avec un peu
sa stratégie rhétorique. Non, c'est sa stratégie rhétorique.
Il cause riche parce qu'il est l'aumônier de l'armalien, hein, mais la stratégie rhétorique, ça s'appelle un mauvais choix.
Il laisse se tromper, en fait.
Comment comprendre le fait que Paul soit un pharisien et qu'il se convertisse alors que Jésus dans l'évangile n'a cesse de démonter les pharisiens?
Alors, c'est gentiment dit. Alors, je vous ai fait le panorama, les grandes familles spirituelles du judaïsme. La question qui se pose, c'est Jésus, il appartient à laquelle? Ben, aux pharisiens.
Non.
Jésus est pharisien.
Oui.
Le plus mauvais livre pour savoir ce que c'est qu'un pharisien, c'est le Nouveau Testament. Mais c'est un bon livre, le Nouveau Testament, je recommande. Mais, alors, maintenant, je reprends les choses. Du point de vue des formes religieuses, encore une fois, le pharisaïsme est lui aussi varié. Et du point de vue des formes religieuses, les confréries, les baptêmes, la fraction du pain, l'importance du royaume de Dieu. Voilà. Ça, c'est du pharisaïsme. Et c'est parce qu'ils sont proches que ça castagne. C'est parce qu'ils sont de la même famille. Avec les Sadducéens, suffit d'avoir à prononcer le mot de résurrection, c'est fini, on n'a plus rien à se dire. Ou on peut discuter de ça pendant des heures, mais de toute façon, chacun avec son côté, on ne bougera pas. Avec les pharisiens, il y a plein de sujets sur lesquels on peut discuter. Qu'est-ce qui est le plus important dans la loi? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va commencer par payer la manque, la dîme ou machin? Voilà. Ça, c'est les sujets sur lesquels on peut discuter. Et donc, ça discute. Et ça discute au bord de la Méditerranée, avec intensité. Voilà. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, les premières communautés chrétiennes ont été en butte avec des pharisiens parce que justement, ils en étaient originaires. Et donc, la vigueur des propos des propos de Jésus contre les pharisiens, tels que ça nous est rapporté, reflète aussi les polémiques. Il faut voir. Et on habitait au bout de la rue droite à Damas, on s'est fait chasser de la synagogue à cause de notre foi en Jésus, on a trouvé une maison trois bouts plus loin, on se réunit ici, et on se voit. Et nos enfants jouent ensemble. Et tout ça, ça crée aussi de la tension et de la force. Ce qui fait que le pharisaïsme n'est pas un phénomène pharisien. Le pharisaïsme, la typologie du pharisien qui se conforme, les pharisiens, c'est des gens très bien. La preuve, ils nous ressemblent. Ça marche dans tous les sens. Les pharisiens, c'est vraiment des gens qui ont l'espérance chevillée au corps. Qui ne sont pas forcément riches, quoi qu'on dise Luc, à ce moment-là. Et qui ont le souci du royaume. Et qui ont le souci de servir le Seigneur. Alors, ben évidemment, comme toute personne qui a envie de servir le Seigneur, de temps en temps, il s'intéresse davantage à son service qu'au Seigneur. Les pharisiens sont des gens bien, la preuve, ils nous ressemblent. voilà. On a mis un peu de temps à les connaître, mais les manuscrits de Qumran nous ont beaucoup aidés. Ce qui fait que maintenant, on peut vraiment dire que le portrait des pharisiens dans l'Évangile, c'est une caricature... à usage pédagogique et spirituel, mais ce n'est pas un témoignage historique.
Dites-vous quelle était l'importance des communautés pharisiennes dans le judaïsme de la communauté ?
Alors, les pharisiens, c'est-à-dire les maîtres et tout ça, ils étaient 8000 sur 250 à 300 000 personnes, donc c'est un nombre très réduit. Mais ils avaient une grande influence parce que, justement, ils s'occupaient du peuple. Moi, j'étais curé dans le 19e, qui est une des villes européennes, une juive européenne. Les familles juives qui étaient dans le deuil, par exemple, alors c'était les Lubavitch, mais les familles juives qui n'appartenaient à aucune obédience étaient contentes qu'il y ait quelqu'un qui frappe à leur porte, on a appris que votre grand-mère est morte, on va vous dire comment on fait. Parce que du coup, il y avait des gestes qui étaient proposés pour vivre le deuil et pour à la fois manifester son identité juive, son appartenance à Israël et avoir des gestes qu'on avait oubliés et qui permettait de faire ça. Mais les pharisiens, ils font ça. Il y a même, parmi ces pharisiens-là, il y a une catégorie, ils s'occupent tout particulièrement d'aménager les maisons pour qu'on puisse prendre le repas et vivre dans la pureté, en conformité à la loi. On les appelle les charpentiers. C'est-à-dire que, vraisemblablement, l'activité de Joseph, c'est pas simplement d'être charpentier, il faut prendre le charpent, mais c'est aussi dans cette visée spirituelle et religieuse. C'est une hypothèse qui est assez bien défendue aujourd'hui.
Mais vous, j'ai une question qui est un petit peu liée.
Là, on s'arrête, hein, Gabriel. C'est 37,
hein, déjà. Vous avez dit que Saint Paul, il est nationaliste juif, donc.
Et j'ai pas dit sioniste, merci de pas transposer.
Ensuite, il finit par avoir des propos assez durs. Je sais pas si c'est contre le judaïsme, mais en tout cas contre la loi, contre ça. Donc comment. Parce qu'il y a vraiment une évolution.
J'ai combien? J'ai une heure encore?
Non.
Alors on va dire les choses très simples. Paul s'est toujours considéré comme juif, jusqu'à la fin. Les textes qu'il écrit, ça n'est jamais contre les juifs, c'est contre des chrétiens qui sont attachés aux pratiques juives. C'est un problème interne à la communauté. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on combine la foi avec ce qu'elle n'est pas. Parce que pour lui, c'est comme avoir deux assurances pour la voiture, on s'est fait arnaquer les deux fois. Si je crois en Dieu, j'ai pas besoin d'avoir une assurance parce que j'ai fait du bien. Si je crois que par la Torah j'accède à Dieu, ben la foi ne me sert à rien. Donc ce qui insupporte Paul, c'est la combinaison de Dieu. Et donc, dans la théologie de Paul, et là c'est là où il faudrait une heure, il y a la place pour Israël jusqu'à la fin des temps. La lettre aux Romains est très claire, la conversion d'Israël est un événement eschatologique. Israël et l'Église chemineront côte à côte jusqu'à la fin des temps. Et Dieu parle à l'humanité avec et Israël et l'Église. Ça fait deux conférences à venir.
On aura l'occasion de revoir tout ça, parce qu'on va avoir un cycle sur Saint Paul.
Ouais.
On aura plusieurs questions.
Voilà. Et alors, on a oublié ça, et le Concile Vatican II l'a remis au jour.
Merci beaucoup.
Ah, je vous laisse.